Nora Nour est photographe. Sa rencontre avec le portraitiste Quinn Jacobson est déterminante puisqu'elle choisira alors la même voie que lui, le portrait. Lorsqu'elle se présente, elle ajoute encore qu'elle est militante féministe et qu'elle est franco-marocaine. Elle le précise parce qu'elle est née en France, mais que la première nationalité qui lui a été attribuée est la nationalité marocaine. À l'époque, on n'attribuait pas la nationalité aux enfants d'immigrés. Deux éléments, le féminisme et la double nationalité, qui influencent nécessairement son travail, le tout étayé par un Doug en sociologie.
Bien sûr, ça a une influence particulière et c'est une revendication nécessaire parce que, en tant que portraitiste, j'ai pas mal étudié le portrait et je me suis rendu compte qu'on a érigé des femmes au rang d'icônes avec des très beaux portraits. Catherine Deneuve, Sophie Marceau, Isabelle Huppert,
Audrey Hepburn.
Voilà, ça c'est les 3-8 du magazine Elle, tu vois, ça tourne régulièrement, on les voyait. Elle y avait toujours la légende d'une femme libre, une femme formidable, mystérieuse, profonde. Juliette Binoche aussi, elle y a eu le droit à tout ça. Et pour les femmes qui me ressemblaient, on n'a jamais eu d'image iconique comme ça. On ne s'est jamais accroché à quelque chose où on s'est dit « Waouh, je veux être comme elle ». Et c'est ça qui m'a, moi, je me suis dit, il faut montrer cette diversité qui est la France. Il faut montrer ces images, mais il faut montrer des images de femmes iconiques très fortes, des très belles images. C'est important. Et pour restaurer notre image de nous, parce que nous, on a été quand même éduqués dans la haine de nous-mêmes, ça, faut pas le nier. Et pour participer quelque part à une banque d'images dans tout ce marasme internet-là, en essayant d'apporter des belles images de femmes. Qu'on n'a pas l'habitude de voir ou qu'on a eu tendance à dévaloriser.
Donc du coup, quand tu dis « nous », tu parles de femmes racisées, du coup ?
Exactement. Des femmes qu'on n'a pas vues pendant X... Des femmes qu'on n'a pas vues pendant X années à la une des médias et qu'on n'a pas valorisées ou qu'on n'a pas mis des carrières en avant. Aujourd'hui, on commence à voir de plus en plus de femmes racisées, asiatiques... Sud-asiatique, noire, afro-américaine, africaine, tu vois, nord-africaine, américaine, mais ça commence, quoi. C'est pas... ça vient d'arriver, c'est pas nouveau.
Pour être plus complète dans la présentation de Nora et son travail, il faut également parler de Dialna, le magazine en ligne qu'elle a créé avec Nadia Bouchini.
Dialna, ça rejoint complètement l'état d'esprit de mettre en avant des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir, sous-représentées, qu'on dit des minorités. Et donc du coup, ça a été une rencontre d'abord avec Nadia Bouchini, qui est journaliste, presse écrite, et qui est... on s'est rencontrés tout à fait par hasard à Bruxelles. J'avais une galerie à l'époque à Bruxelles, photo, elle est venue voir l'expo, et on a cliqué, on est devenus proches, on est devenus amis. Et puis au fur et à mesure, on discutait, je disais, mais oui, j'avais vu... une couverture d'un magazine féminin, et il y avait encore Isabelle Huppert, Isabelle Adjani, Catherine Deneuve, voilà. Et je disais, mais c'est toujours les mêmes personnes qui photographient, et c'est toujours les mêmes personnes qui sont photographiées. Et Nadia, elle me dit, viens, on fait le nôtre, comme ça on montre des personnes que ce genre de magazine ne montre pas. Et je dis, je vais te prendre très au sérieux, on va le faire, elle me dit, chiche, et on l'a fait. Et donc du coup, on a mis en 2016 tout l'été à préparer le magazine et il est sorti en septembre 2016. Et donc du coup, on a montré des gens tout horizon, des gens du business, des artistes, des écrivains, des philosophes. On a montré de tout. Et voilà, l'idée est de montrer des personnes issues des minorités qui ont un parcours, pas nécessairement avec beaucoup de succès, mais... En tout cas, un parcours exceptionnel et un parcours où ils se sont autorisés à faire des choses. Ce que la société, des fois, ne te donne pas trop le droit de rêver ou de faire. Donc du coup, on a rencontré des gens mais avec des parcours de fous, quoi. Des gens qui, qui vendaient de l'huile d'argan et qui vendaient des disques, tu vois. Il y a même qui défend la veuve et l'orphelin. Enfin, c'était franchement le voyage de Chihiro, notre Dialna. Mais on adore ce magazine et puis donc on adore montrer des gens aussi qui nous inspirent. Et tous les lundis, il y a un son parce qu'on dit qu'on doit commencer la semaine en musique. Et puis en milieu de semaine, en général le jeudi, on a un article qui arrive Et puis une fois par mois, il n'y a jamais sans mon livre, ça c'est Nadia qui s'en occupe. Et donc c'est des personnes racisées qui présentent un livre, là aussi pour casser le cliché de ces personnes qui ne sont pas cultivées ou qui n'osent pas lire.
Nadia et Nora ont choisi d'écrire et photographier toutes les deux, sans distinction professionnelle, ce qui rend selon moi le contenu de Dialna d'autant plus intéressant. Je vous invite à vous rendre sur le site. Le 8 août 2018, à l'Université de Nanterre, se tenait le 8e congrès féministe. Nora y a participé en tant que conférencière autour de la thématique « L'art du portrait, un acte féministe ».
J'avais pris la photo de l'actrice libanaise Hanan Hajrali, qui est une actrice libanaise très connue au Moyen-Orient. Et j'avais gagné donc avec deux autres de mes camarades le concours en question de la Fondation Euro-Méditerranée. Et donc du coup, on devait présenter nos travaux au Congrès féministe de Nanterre, à l'Université de Nanterre. Et le féminisme, enfin la photo, est un acte féministe dans le sens où tu montres des visages, mais tu montres des parcours et donc tu autorises une ambition. Plus tu montres des modèles, plus tu montres une ambition possible. Et donc, moi, il fallait montrer des femmes qu'on avait tendance, comme je te dis, à dévaloriser, leur montrer leur caractère et essayer, du mieux que je peux, de faire des plus belles photos pour montrer aussi toute leur beauté. À travers, il y a pas que la beauté physique, hein, j'entends, ça dépasse largement le physique, cette beauté, mais voilà. Et plus tu montres, en fait, des exemples, plus tu montres des visages, plus tu montres une ambition et une possibilité, tu ouvres le champ des possibles, en fait, pour d'autres femmes. Et de dire, ah ouais, c'est possible. Donc, c'est important de photographier des femmes avec une bienveillance. On ne photographie pas comme des mecs. C'est évident, peut-être que des mecs sont bienveillants, mais on n'a de toute façon pas le même regard.
C'est cette question qui est de plus en plus au cœur du débat de male gaze, female gaze, du point de vue de l'homme ou de la femme qui va changer tout à fait un film, par exemple, ou effectivement une photo.
Exactement, mais ça fait toute la différence. Et même moi, je vois maintenant de plus en plus de femmes quand des hommes photographes essaient de les approcher en disant je suis photographe, tout de suite elles se braquent, genre qu'est-ce que tu me veux. Il y a une appréhension, et je peux comprendre, hein, parce qu'il y a eu des abus aussi, mais il y a le regard aussi des hommes qui est biaisé ou qui est complètement conditionné par le regard patriarcal et machiste, sexiste, raciste. Donc ouais, c'est important de casser tout ça, quoi. Moi, quand j'ai vu l'interview d'il y a des nombreuses années, ça, je crois qu'il y a 15 ans, de Aïssa Maïga, qui dit « J'en ai marre dans les séances photos qu'on me propose toujours des imprimés léopards ou zébrés. J'en ai marre qu'on me mette ce côté animal, moi, la femme noire. Moi, j'aime Tom Ford aussi, j'aime les coupes épurées, j'aime les belles matières. Pourquoi on ne me proposerait pas ça, quoi ?» Tu vois ? Et moi, je sais que moi, en tant que femme racisée, si un jour, j'espère... photographier cette femme, jamais me viendrait l'idée de me dire « tu peux pas mettre le petit léopard », c'est impossible dans ma tête, parce que je sais par quoi elle passe aussi, quoi. Enfin, il y a une empathie qu'on a entre nous et que seul nous, on peut comprendre, j'ai l'impression.
Peut-être que certains et certaines d'entre vous ne sont pas forcément familiers avec le terme « racisé ». Alors, éraciser celle ou celui susceptible d'être assigné à une catégorie raciale, c'est-à-dire perçu comme appartenant à un groupe altérisé, distinct du groupe majoritaire. Le qualificatif ne désigne donc pas une qualité de l'être, mais une propriété sociale, non pas une identité, mais une position dans la société résultant d'un processus collectif, la racisation étant un terme lui-même issu des travaux de Colette Guillaumin, auquel je vous conseille de vous intéresser. Alors, aussi surprenant que cela puisse paraître, tant par la distance, puisque Nora vit à Paris, que par son CV qui est assez impressionnant, c'est bien elle qui nous a trouvés. Elle était emballée par le côté inclusif de l'association Team Sama et voulait proposer un atelier autour de l'estime de soi, une clé pour faire bouger les choses selon elle.
Moi, je pense qu'on nous a conditionnés à nous détester. Et plus moins on s'aime, nous les femmes, et plus on nourrit tout un business qui est derrière et qui est juste énorme. Quand t'aimes pas tes cernes, t'achètes de l'anti-cerne. Quand t'aimes pas ta cellulite, tu vas acheter la crème anti-cellulite, machin. Quand t'aimes... Voilà, il y a tout... Il y a je sais pas combien de produits juste sur notre corps. Et ils ont tout à gagner. Enfin, il y a tout un système qui a à gagner à ce qu'on ne s'aime pas. Donc, il va falloir déjà comprendre le système dans lequel on vit. Et ça, c'est super important. les gens ne font pas la différence entre individu et système. On vit dans un système bien violent contre nous, les femmes. Et nous, les femmes, on devient violentes envers nous-mêmes. Tu vois, des fois, des femmes qui prennent leurs cuisses en disant « T'as vu comment j'ai grossi ?»« T'as vu comment elles se prennent les cuisses ?» elles se pincent littéralement, on va dire « Mais doucement, ça fait pas mal comme ça !» Donc déjà, se comprendre le système. Ensuite, se réapprendre à se regarder autrement. Et de ne plus s'auto-flageller avec des mots toxiques. Parce qu'une femme qui ne s'aime pas est une femme, pour moi, qui est en danger. Quand tu ne t'aimes pas, tu dis des choses toxiques et des choses négatives. Et autour de toi, il y a des prédateurs qui vont entendre que tu t'aimes pas et qui vont pas hésiter une minute à venir finir le travail. Donc, c'est pour moi une des premières formes de self-défense, c'est le self-esteem. Et puis ensuite, il va falloir retravailler et donc reprogrammer toute une façon de penser et se regarder, apprendre à se regarder dans le miroir avec un peu plus de bienveillance envers soi-même. On a passé une grosse partie de notre vie à dire du mal de nous, ou à nous rabaisser, ou à nous trouver pas assez, ben là, on va faire le contraire. On va repasser l'autre partie à essayer d'être sympa avec nous-mêmes, et voir juste les effets que ça fait, quoi. Juste en ayant une meilleure image de soi. Et ensuite, en général, je prends des photos, et cette photo-là, c'est comme un contrat entre ces femmes, en disant, ben, à partir d'aujourd'hui, tu te parles bien. tu arrêtes de te regarder avec méchanceté. C'est pas toi qui n'es pas jolie, c'est la société qui n'est pas terrible et on ne peut pas se plier à la société. Il faut qu'on résiste, quoi. En gros, c'était ça que j'avais prévu.
Une proposition qui résonne d'autant plus après les innombrables injonctions à rester belle, mince et élégante, même confinée.
Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, il y a un traumatisme international. On est en train de digérer ce trauma. Pendant ce trauma, en tout cas pendant cette crise sanitaire, celles qui ont été principalement au front, ce sont les femmes. Celles qui ont nettoyé les bus, les cars, les hôpitaux, principalement ont été les femmes. Dans le care, le métier, c'est principalement des femmes. Celles qui ont payé la note de la violence conjugale pendant ce confinement sont été les femmes. Et par-dessus le marché, on nous demande d'être désirable, d'être épilé, de faire des brushings, de pas grossir. Mais on marche sur la tête, là. Enfin, non seulement on sert une société, parce que là, on a montré par A plus B que ce sont principalement les femmes. Il y a eu des hommes, hein, parce que je vais encore entendre dire « Oui, mais nous aussi, oui, il y a eu des hommes. » Mais dans les métiers du care, ce sont les femmes. Les caissières, principalement, ce sont des femmes. Et dans le ménage, principalement, ce sont des femmes. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. On a tenu, et ça c'était international, un pays avec des super-héros, comme on dit, et en plus, on a une injonction à la minceur, à la jeunesse, à la douceur. Mais attendez, ça va, oui. Non, faut arrêter un petit peu. Là, j'étais très en colère, hein, par contre, très très en lisant ça.
Et cette colère, elle date même d'avant. Si on essaye, malgré l'intensité de la période qu'on vient de traverser, de se remémorer ce qu'il se passait quelques jours avant la déclaration du confinement, on se souviendra que des féministes manifestaient pour les droits des femmes. Il y avait bien sûr eu l'affaire Polanski au César, et puis elles avaient pris la rue, à Paris surtout, pour le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. On se souviendra de ces images de femmes traînées par des policiers. On se souviendra de la colère et de la détermination, l'envie de faire entendre nos voix.
Nous, les femmes, on vote. Nous, les femmes, on travaille, on contribue à des taxes. Et si on arrêtait complètement, on arrête tout. Comment on va faire la société? Juste qu'on voit. Voilà. Est-ce qu'on ne doit pas paralyser, tout geler, juste pour montrer, ben voilà, une semaine sans nous, vous allez voir si l'économie ne va pas chuter, si votre système ne va pas être gelé. Non, mais tu vois, et il faut arrêter de nous insulter et de nous utiliser aussi. Donc oui, il faut qu'on s'organise. Oui, il faut qu'on ait le même objectif. C'est super important aussi. Parce qu'il y a plusieurs féministes. Hein. Oh, oui. Il y a des féministes et des féministes. Donc, oui, je pense qu'il va falloir porter ça à plus haut niveau. Quoi. Et c'est plus possible. Je regarde en Amérique du Sud. Quoi. Les femmes, c'est terminé. Elles se laissent plus. Elles sont devant les institutions et elles lâchent pas. Elles font leur flash mob, là, et elles lâchent pas la fin. Enfin, ça aussi, c'est historique, tu vois.
Ni la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como vestía. Ni la culpa no era mía, ni donde estaba, ni...
qu'on se moque de toi. On te dit, ouais, c'est ça, t'as raison, tu vas changer les choses. La deuxième étape, t'es dangereuse, ou t'es dangereux. Donc là, elle commence vraiment à changer les choses. Et la troisième étape, on devient normal, on rentre dans une... ça devient une normalité. Mm. Je pense que là, on est à la deuxième étape. On commence à être dangereuse, puisque les flics commencent à nous tabasser, puisqu'on commence à nous museler un peu partout, on commence aussi à nous humilier sur les plateaux télé en disant, on est une meute. On est des hyènes, on est des, tu vois, les mecs entre eux ils sont solidaires, mais nous on est des meutes, on est des hyènes, on est ce que tu veux. Il n'y a pas de souci, on va encore, et je pense que ce moment-là va être encore plus fort après, enfin je le souhaite, en tout cas j'envoie toutes les ondes féministes en moi, et aux femmes de la Terre, on va être encore plus fort, et on va être encore plus en colère, parce qu'on va faire le bilan de ce Covid. Et comme je te dis, celles qui ont payé le prix fort, ce sont les femmes. Ne serait-ce que par le nombre de, hélas, de mortes qu'il y a eu à cause du confinement. Je pense aussi à toutes les violences qu'on a subies pendant ce confinement, les violences financières, les violences administratives, les violences émotionnelles, verbales. Il y a eu des femmes qui sont sorties, des infirmières qui sont sorties de l'hôpital, qui ont dû être escortées pour aller jusqu'au métro, parce que la rue était prise par les hommes et qu'il y avait du harcèlement de rue à tout va. Enfin, on en est à un point, on ne peut plus respirer, et quand on ne peut plus respirer, bah à un moment donné, on va bien crier pour arrêter. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une annulation et qu'il y a eu un super truc qui a été stoppé net, mais ça ne veut pas dire qu'on est en train de se taire. Au contraire, je pense que là, on est en train de, enfin, j'espère, on est en train d'observer ce qui se passe et il va falloir s'organiser pour changer les choses. Parce que cette violence-là, on ne peut plus continuer à vivre avec, quoi. C'est pas possible. Et il faut déconstruire encore énormément de choses. Donc pour déconstruire, il faut continuer à parler, il faut continuer à combattre, il faut continuer à avancer, il faut continuer à faire plein de choses. Mais on peut pas. Non, pour moi, ce serait trop violent si on stoppait net. C'est pas possible. Et je te dis, moi, il y a eu le bilan du Covid va en énerver plus d'une à mon avis et plus d'un, j'espère. Polanski, c'est la petite. C'est, tu sais, l'étincelle là, du truc qui a mis le, je sais pas comment te dire, qui a
mis le feu aux poudres,
mais j'ai presque envie de te dire la loupe de ce qui se montre, c'est-à-dire on a vu les masculinités toxiques à travers après les Césars, tu vois tous les mecs tout d'un coup qui sont complices les uns des autres, qui se non mais c'est bon de comment dire, comment ils ont dit
séparer l'œuvre de l'artiste.
Jeune ami, nanana. Bon, bref, on l'a entendu bien pleurer. On a vu aussi que bah, pendant des années, les hommes qui avaient le pouvoir comme l'argent, le prestige, la notoriété, pouvaient faire n'importe quoi à n'importe qui. Ça va s'arrêter aussi. Il faut que ça s'arrête. C'est pas possible. On a vu aussi que les femmes pouvaient être aussi solidaires, même si elles n'étaient pas tout à fait d'accord sur les différentes formes de féminisme, mais sur ce truc-là, il s'est passé quelque chose, quoi. Mm. Et donc, ça ne peut pas partir comme ça, ça ne peut pas être dissous dans la flotte. Non, c'est pas possible, moi, j'y crois pas.
Pour être tout à fait honnête avec vous, j'étais particulièrement émue à ce moment de l'entretien. Il s'est écoulé une poignée de secondes avant que des mots sortent à nouveau de ma bouche, mais Nora avait toujours le sourire et la détermination, et comme dirait l'ami Stagev, c'est ça qui est bon.
Mais ça fait 5000 ans qu'on nous dit de nous taire. Ça fait 5000 ans qu'on nous dit d'être douce, d'être mince, d'être jeune éternellement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dès que t'as les premiers poils, on te dit de les retirer pour être absolument lisse. Et du jour au lendemain, on l'ouvre. Donc on commence à bouger leur privilèges. Ils ont peur. Ben, ils peuvent. Mais ça va changer, ça c'est évident. Moi j'en ai marre de compter les femmes mortes en fin d'année comme ça. Quand je vois le décompte, nous toutes. C'est pas que j'en ai marre, j'ai pas de mots d'ailleurs. Il va falloir montrer que c'est plus possible, ça, que c'est inacceptable, en fait, de voir, par exemple, quand tu vois le 25 novembre, au niveau des manifestations, des enfants orphelins qui ont perdu leur mère suite à des violences conjugales, là on a du concret, là, on est face à l'horreur. Donc, on fait quoi concrètement? Moi, je pense que ça se passe à haut niveau. Même si nous, on rapporte, les féministes, activistes et les associations, des informations qu'on essaie de les faire remonter, au bout d'un moment, en haut, qu'est-ce qui se passe pour que les choses changent? Est-ce qu'on doit faire des stages aussi pour les hommes violents pour qu'ils comprennent et qu'ils prennent conscience que c'est plus possible? Est-ce qu'on va... Il y a tout un programme à refaire. Et c'est pas juste en manifestant qu'on peut changer les choses. Manifester, ça nous aide à nous sentir moins seuls dans cette histoire, à dire qu'on continue, à faire le bilan, triste bilan. Mais à un moment donné, il y a des politiques et est-ce qu'on peut pas faire quelque chose? On doit former des policiers à accueillir des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Très peu de policiers savent accueillir des femmes, très très peu. Quand, et là je le dis haut et fort, mesdames, vous voulez porter plainte, n'allez jamais seule, allez toujours avec une autre personne, et si possible quelqu'un qui s'y connaît en droit, une juriste, un avocat, j'en sais rien, mais voilà. Parce que la victime, elle est fatiguée, elle est fébrile, elle est pas bien, donc faut savoir l'accueillir, ils savent pas. Et puis aussi, former les femmes au droit, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu pour nous la Convention d'Istanbul qui a été écrite, qui a été ratifiée dans je ne sais pas combien de pays, et combien de femmes connaissent vraiment leurs droits? Très peu. Donc il y a tout un système à, tu vois, à chambouler et à réapprendre.
La Convention d'Istanbul, ou Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, repose sur l'idée qu'il s'agit d'une forme de violence sexiste dans la mesure où elle est exercée sur les femmes parce qu'elles sont des femmes. Il incombe à l'État, sous peine d'être en faute, de lutter efficacement contre cette violence sous toutes ses formes, en prenant des mesures pour la prévenir, en protégeant les victimes et en poursuivant les auteurs. Vous pourrez retrouver plus d'informations sur le site du Conseil de l'Europe. En attendant, on retrouve Nora Nour pour son jour d'après.
Mon jour d'après, concrètement, il y a un système capitaliste hein, qui est à revoir hein, suite à cette crise du Covid. Moi, je me suis dit, il faut absolument que j'apprenne à être le plus indépendante possible, en fait. Il va falloir apprendre à cultiver son jardin. Il va falloir apprendre à, je sais pas, à être le moins dépendante de l'État, si je peux. C'est la chose que je me suis dit, en fait. Parce que j'ai vu qu'il fallait pas grand-chose pour que tout un système se gèle, en fait. Et puis, je me suis dit aussi, la notion du temps a été complètement chamboulée. Donc, si je suis en retard sur certains trucs, c'est pas grave. C'est pas grave. On va à son rythme, on n'est pas obligé de se dépêcher comme j'avais l'habitude de faire, de courir après 4 métros et de... C'est bon. Ça aussi, ça m'a calmé. Maintenant, honnêtement, j'espère qu'on va plus manger local, qu'on va plus être authentique, qu'on n'aura pas besoin d'acheter 50 crèmes jour, nuit pour aller mieux, qu'on soit conscient qu'on a nourri tout un système qui n'est pas bon pour nous, en fait, qui nous a appauvris et qui nous a... appauvri dans tous les sens du terme, hein, psychologiquement, financièrement, voilà. Et j'espère qu'on est revenu en fait à l'essentiel, c'est-à-dire la solidarité, c'est-à-dire, comme j'ai dit, manger local, ne plus courir après une mangue qui vient d'Uruguay, enfin, je sais pas, je te dis, voilà. Ça m'a vraiment touchée, quoi. Et je me suis, pendant le confinement, je me suis posé la question, en fait, en tant que portraitiste, à quoi je sers, en fait? Parce que là, en fait, pour être utile, on m'a dit, reste chez toi. On m'a pas dit, viens faire des photos, tu vois. Et c'est là où je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, ok, donc tu vas cultiver la terre et tu vas cultiver des tomates et tu vas cultiver des pommes de terre et on sait jamais. Comme ça, au moins, tu sais faire ta propre tambouille toute seule. Et voilà, mais... ça m'a bien mis à ma place, en fait, ce confinement. Et le jour d'après, il y a eu une bonne dose d'humilité, quoi. Tu vois, il y a une bonne dose d'humilité qui s'est créée en moi. Parce que franchement, les vrais artistes, c'est ceux qui ont travaillé dans les hôpitaux, les EHPAD, les dames de ménage, les caissières. Ceux-là, ils ont été grandioses. Et il fallait vraiment être courageux pour tenir face à la psychose, tu vois, internationale qu'on a eue, la peur de la maladie comme on n'a jamais eu, donc voilà. Donc le jour d'après, j'espère être plus solidaire et j'espère aussi qu'on respectera plus ces métiers et que quand les infirmiers feront grève, qu'on soit derrière eux aussi, quoi, en disant on n'a pas oublié. On n'a pas oublié ce que vous avez fait. Pas juste les utiliser et puis une fois que ça va mieux, salut quoi.
Ben, merci beaucoup Nora.
Ben, merci à toi, merci, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises.
Et quel homme aurait fini à l'interview comme ça ?